Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour le cinquième dimanche. Alors, sortant de la synagogue de Capharnaüm, ils vont dans la maison de Simon et d'André avec Jacques et Jean. La belle-mère de Simon est couchée avec de la fièvre. Alors, on parle d'elle à Jésus. S'approchant d'elle, il la fait lever en la prenant par la main. La fièvre la quitte et elle commence à les servir. Le soir venu, quand le soleil est couché, on lui amène tous les malportants et ceux possédés par des esprits mauvais. La ville entière est rassemblée devant la porte. Il guérit tous les malportants de diverses maladies, il expulse beaucoup d'esprits mauvais et les empêche de parler parce qu'ils savent qui il est. Au matin, alors qu'il fait tout à fait nuit, Jésus se lève. Il sort et va dans un endroit désert, et là, il commence à prier. Simon et ses compagnons se mettent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent
« Tout le monde te cherche ».
Il leur répond
« Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je prêche, car c'est pour cela que je suis sorti ».
Il va donc prêcher dans leur synagogue dans toute la Galilée et expulser les esprits mauvais.
Auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. 24 heures dans la vie d'un prophète, Jésus de Nazareth. Prédication, guérison et prière, voilà un résumé de ses activités. Il serait intéressant de voir à qui s'adresse la prédication de Jésus, le sens qu'il faut donner aux guérisons et la place de la prière dans la vie de Jésus.
Alors regardons d'abord où se situe ce texte. Il se trouve au début du récit évangélique de Marc. Jésus a reçu sa mission de Dieu Père lors de son baptême. Puis il a pris un temps de retraite pour définir les choix missionnaires qu'il fera tout au long des mois à venir. Il s'est ensuite choisi des collaborateurs. Et la journée de Capharnaüm va donner, en raccourci, les différentes activités de Jésus. Un point peut nous sembler un peu surprenant, le silence qu'il impose à ceux qui savent qui il est. On pourrait penser au contraire que les guérisons et l'enseignement devraient avoir pour but de le faire connaître. Alors il faudra donc nous interroger sur la raison de ce silence imposé. Et une dernière interrogation, eh bien, ce texte peut-il encore éclairer la journée de ce missionnaire de l'Évangile que doit être le chrétien d'aujourd'hui ?
Jésus prêche dans leur synagogue.
Alors la synagogue, on le sait, est le bâtiment où les Juifs d'un village se rassemblent pour la prière. Le jour du Shabbat, le samedi, on y fait la lecture de la Torah, les textes de la Bible, les premiers livres de la Bible et la lecture aussi d'un prophète. Une lecture qui va être suivie d'un commentaire qui est un enseignement.
Le verset 39 parle de leur synagogue. Qui représente ce leur ?
Alors, on ne sait pas très bien, certains spécialistes attribuent ce pluriel à l'influence de la situation qui prévaudra, mais bien plus tard, dans les années 70, lorsqu'il y aura eu rupture entre les disciples de Jésus et les communautés juives. Leur synagogue désignerait à ce moment-là les rassemblements de prière des Juifs par opposition aux rassemblements des chrétiens qui, eux, tiendraient ailleurs leurs réunions de prière dans des maisons privées. Mais le Juif André Chouraki fait remarquer qu'au temps de Jésus, chaque groupement juif, chaque mouvement juif avait son propre lieu de réunion et de prière. Alors ça voudrait peut-être dire que Jésus prêcherait indifféremment dans les synagogues des Sadducéens ou dans les synagogues des pharisiens. Ajoutons que l'apôtre Paul, lorsqu'il fera ses voyages missionnaires, commencera à annoncer Jésus et son évangile dans les synagogues juives.
Passant par Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Comme il en avait l'habitude, Paul alla les trouver. Et, trois sabbats de suite, il leur adressa la parole. À partir des Écritures, il expliquait, établissait que le Messie devait souffrir, ressusciter des morts, et, disait-il, le Messie, c'est ce Jésus que je vous annonce.
Voilà, c'est un texte du livre des Actes. La synagogue est donc un lieu important pour la première annonce de l'Évangile. Dans les versets qui précèdent notre récit d'aujourd'hui, Jésus vient justement d'y faire un enseignement. Et les gens s'interrogent, qu'est-ce que cela ? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. En effet, la majorité des rabbis appuient toujours leur propre enseignement sur l'enseignement de leurs prédécesseurs, comme l'a dit Rabbi Intel. C'est une formule qui est une formule consacrée. Alors que lui, Jésus, enseigne de sa propre autorité. On vous a dit, mais moi, je vous dis. Mais nous voyons que Jésus ne se contente pas d'enseigner dans les synagogues. Peut-être parce qu'il sait que son enseignement ne sera pas toujours bien reçu de la part des chefs des synagogues. Peut-être aussi parce qu'il ne veut pas limiter son enseignement à ceux qui fréquentent ces lieux de prière. En effet, à son époque, bien des femmes n'allaient pas à la synagogue, mais aussi ceux que leur métier, leur état de marginaux, écartaient de la communauté, comme par exemple les bergers qui devaient rester au champ pour garder les troupeaux, comme les collecteurs d'impôts qui étaient exclus parce qu'ils travaillaient avec l'occupant romain, et aussi tous ceux qu'on appelait avec mépris les gens de la terre, qui étaient des gens peu instruits. Jésus d'ailleurs rendra grâce à Dieu de l'accueil que les humbles feront à son enseignement.
« Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout-petits. »
On trouve un écho de cela dans le récit évangélique de Jean.
Parmi les notables et les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la Torah, des gens maudits.
Voilà. En fait, Jésus refuse de se laisser accaparer par un groupe particulier, un groupe plus fermé. Il veut faire entendre son message partout. Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti.
Quel est ici le sens du mot « sorti » ?
Oui, en effet, faut-il le comprendre dans le sens matériel ? Jésus est sorti de la maison de bon matin, comme il est dit. Ou bien faut-il le comprendre aussi dans un second sens, un sens figuré, comme d'ailleurs l'a fait l'évangéliste Luc qui écrit « C'est pour cela que j'ai été envoyé ». Sortir voudrait alors dire « Je suis sorti de Dieu ». Et je viens en ce monde au nom de Dieu qui m'envoie apporter un nouvel enseignement sur la Torah. C'est ce sens qu'on trouve tout spécialement dans le récit évangélique de saint Jean.
Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'auriez aimé, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de mon propre chef, c'est lui qui m'a envoyé. » Le soir revenu, quand le soleil est couché, on lui amène tous les malportants et ceux possédés par des esprits mauvais.
Ce rabbi, cet enseigneur, ne prêche pas seulement par la parole. Il guérit aussi des malades. Le soir venu, la fête du Shabbat prend fin, ainsi que le repos qui accompagne ce Shabbat. Jésus, lui, commence sa mission dans la nuit, en contact avec bien des souffrances. La nuit est sans doute ici comme le symbole des ténèbres dans lesquelles l'humanité se trouve, blessée par la maladie et le mal moral. Jésus veut apporter un peu de lumière et de réconfort à cette humanité souffrante. Il va d'abord guérir la belle-mère de Simon. Dans la culture de la Bible, la fièvre était vue comme un châtiment de Dieu.
« Si tu n'obéis pas à la voix du Seigneur ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, « toutes les malédictions que voici t'atteindront. Consomption, fièvre, inflammation, fièvre chaude. »
Voilà un extrait du chapitre 28 du Deutéronome. Marc associe aussi maladie et influence d'un esprit mauvais. En cela, il reflète les croyances populaires de son temps. Derrière les maux de l'humanité, on voyait volontiers des puissances cachées dont on faisait souvent des puissances quasi divines. On identifiait facilement un esprit mauvais comme étant le responsable de la souffrance. Autant la souffrance qui vient de la maladie physique que celle qui vient d'un mal moral. C'est pourquoi souvent maladie et expulsion de mauvais esprits étaient associés.
Il y en avait tant guéri que tous ceux qui étaient frappés de quelque mal se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu ». Il chassait beaucoup de démons. Il faisait des onctions d'huile à beaucoup de malades et les guérissait.
Ce lien entre la maladie et l'influence des esprits mauvais, est-ce qu'il est encore valable aujourd'hui? La science nous a maintenant fait découvrir les causes naturelles de la plupart des maladies. Pourtant, nous sommes encore loin de maîtriser pleinement et la vie et la mort. Devant un mal incurable, bien de nos contemporains vont chercher secours dans les médecines parallèles ou auprès des guérisseurs et même dans des forces plus ou moins occultes. La science moderne nous fait reconnaître des causalités physiques, mais aussi des causes psychiques aux maladies, aux maux. Elle a remis en valeur la dimension globale, on dit aujourd'hui la dimension holistique de l'être humain, c'est-à-dire les liens entre le mental et le corporel. On parle de maladies psychosomatiques, ce qui veut dire que lorsque le mental est mauvais ou souffrant, cela a des répercussions sur la santé du corps, et aussi peut-être inversement. Cela rejoint d'une certaine manière l'Évangile, qui présente la guérison comme étant un exorcisme, c'est-à-dire un combat de celui dont l'esprit est bon et fort contre l'esprit mauvais qui habite le malade.
Il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Jésus le menaça. « Tais-toi et sors de cet homme. »
Comment comprendre cela? Eh bien, on peut dire que celui qui est bon exerce un réel rayonnement sur ceux qui l'entourent. Et parce que Jésus est en communion parfaite avec la force d'amour du Père, il peut donc transmettre aux malades et aux pécheurs une force de guérison. Cette force de guérison est une force d'amour. C'est en remettant notre être dans l'amour que Jésus le libère. Libéré de ses servitudes psychologiques, de ses détresses morales, alors l'être tout entier retrouve la santé. Les forces du mal nous aliènent parce qu'elles sont étrangères à notre être profond, elles sont contraires à notre véritable nature humaine. Nous sommes faits pour la bonté et non pas pour la haine. Notre vraie destinée, notre bonheur, se trouve dans la bonté et dans la solidarité. Et cette solidarité de compassion est le fruit de notre communion avec l'amour divin. C'est pourquoi, lorsque nous prions pour quelqu'un qui est malade, eh bien, aller simplement lui offrir un peu d'amour sera l'un des premiers fruits de notre prière pour sa guérison. Oh, certes, la question du mal et de la souffrance reste toujours une question posée à la foi. Et la réponse apportée par Jésus est peut-être l'unique. Comme le disait Paul Claudel, que je vais citer de mémoire, Jésus n'est venu ni supprimer la souffrance ni l'expliquer, il est venu l'habiter de sa présence. Et cette présence est celle de l'amour qui empêche notre souffrance de nous replier sur nous-mêmes et de nous détruire dans l'égoïsme et dans l'agressivité.
Les empêche de parler parce qu'ils savent qui il est.
Il peut être étonnant de constater que bien des contemporains du Christ auront de la difficulté à reconnaître Jésus comme l'envoyé de Dieu et que ce sont les démons qui sauront rapidement dire sa réelle identité. En effet, alors que les gens s'interrogent « Qui donc est-il ?» pour que même le vent et la mer lui obéissent, les démons, eux, savent qui il est, Les esprits impurs se jetaient à ses pieds et criaient « Tu es le Fils de Dieu !»« De quoi te mêles-tu, Jésus de Nazareth? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu !»
Comment expliquer cette perspicacité des esprits mauvais?
Peut-être parce que celui qui est possédé par la méfiance, par l'agressivité, par le ressentiment, par la haine, est vite insécurisé devant un cœur qu'il sent tout rempli de bonté. En face de celui qui transpire la sainteté de Dieu, l'esprit mauvais, qui habite le malade et qu'il possède, va réagir. Pour empêcher Jésus de le déloger, l'esprit veut d'une certaine manière prendre prise sur lui en disant qui il est. En effet, nommer quelqu'un, c'est le dévisager et en quelque sorte avoir barre sur lui. Mais dans cette lutte, ce sera Jésus qui s'opposera au pouvoir du démon en se montrant le plus fort. C'est lui qui le fera taire. Et ce silence ne sera pas seulement imposé aux démons, il concerne aussi les malades qui ont trouvé la guérison.
Il les guérit tous et leur commande sévèrement de ne pas le faire connaître.
Oui, aux lépreux qu'il vient de purifier, Jésus dit « Garde-toi de ne rien dire à personne ». Alors qu'il vient de réanimer une fillette, il recommande vivement que personne ne le sache. Aux sourds-muets, il recommande de n'en parler à personne. Mais plus il le recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Eh bien, ces consignes de silence ont un nom un peu technique dans les évangiles, on appelle ça le secret messianique.
Quelle en est la raison?
Eh bien, remarquons ce que disent Simon et ses compagnons. Tout le monde te cherche. Mais quel est le réel motif pour lequel tout le monde cherche à rencontrer ce rabbi guérisseur? Quand il guérit des malades, quand il nourrit une foule, les gens s'attachent finalement à sa personne bien plus à cause des bienfaits qu'ils ont reçus. Et ils en restent au matériel, à l'aspect physique. Ils ne dépassent pas le niveau matériel et physique pour aller vers la guérison morale et spirituelle. C'est que le but profond donc de la mission de Jésus demeure voilé. Les gens enthousiastes peuvent trop facilement se tromper sur la tâche que le Père a confiée à Jésus. Ils peuvent avoir une vision du rôle du Messie très différente de la vision que lui-même en a. Ils vont vouloir faire de lui un libérateur politique, un guérisseur, mais sans référence au désir de Dieu, qui est d'abord de guérir les cœurs en les baignant dans son amour, en les libérant intérieurement de ce mal véritable qu'est l'égoïsme et la possession de l'autre. Ainsi, après la multiplication des pains, Jésus interpelle les gens pour qu'ils dépassent le simple niveau matériel.
Amen, je vous le dis. Ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé du pain à satiété. Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle. Cette nourriture d'éternité est celle que le Fils de l'homme vous donnera, lui que le Père a marqué de son sceau.
La nourriture spirituelle, voilà ce qu'il faut chercher. L'enthousiasme des gens pour Jésus s'explique parce qu'ils espèrent qu'il les délivrera des Romains. Ils n'attendent donc pas forcément qu'il les aide à trouver la liberté intérieure.
Aussitôt après que Pierre l'ait reconnu comme Messie, Jésus commence à leur enseigner qu'il faut que le Fils de l'homme soit rejeté. Pourquoi cela?
Eh bien, c'est que lorsqu'il sera crucifié, là enfin, Jésus ne pourra plus être vu comme un Messie libérateur politique. C'est en effet dans sa passion que la véritable mission, l'identité vraie de Jésus, va enfin se manifester. Jésus va alors se refuser à utiliser la violence pour contrer la violence qu'on va lui faire. Il ne choisira pas d'autre moyen pour lutter contre le mal que le don de son amour, et cela jusqu'au don de sa propre vie. Oui, pour Jésus, c'est le pardon qui est véritablement porteur de la guérison dont chaque être humain a besoin pour apprendre à aimer en vérité. Et c'est sans doute ainsi qu'il nous faut comprendre la raison de cette consigne du secret. Jésus veut éviter les ambiguïtés qui sont suscitées par ses activités et notamment par ses guérisons. Il veut signifier, d'une manière qui n'est plus ambiguë, comment il voit le rôle de Messie qui est le sien. Il est venu pour aider à une vraie libération intérieure, à une résurrection spirituelle.
Les guérisons opérées par Jésus sont déjà des signes de la résurrection.
Oui, relisons comment Jésus guérit la belle-mère de Pierre. S'approchant d'elle, il la fait lever en la prenant par la main. Le premier geste du Christ qui nous est rapporté par Marc est bien celui-ci. Il tend la main à un être humain. Il l'invite à se relever, à se mettre debout. En deux autres récits de miracles, nous retrouvons cette attitude de tendresse, de prendre la main. Ainsi, dans la guérison de la fille de Jaïr.
Il entra là où se trouvait l'enfant. Il prit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha cum », ce qui veut dire, « Fillette, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt, la fillette se leva et se mit à marcher.
De même, lors de la guérison d'un enfant possédé,
Jésus, voyant la foule s'attrouper, menaça l'esprit impur. « Esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant, il n'y entre plus. » Avec des cris et de violentes convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme mort, si bien que tous disaient « Il est mort ». Mais Jésus, en lui prenant la main, le fit lever et il se mit debout.
En lui prenant la main. Le verbe grec « geiro » qui est employé ici pour dire « il se mit debout » signifie « réveiller » et « ressuscité. C'est ce que disait déjà le prophète Isaïe lorsqu'il parlait des gestes qui seraient ceux du Messie.
« Tes morts revivront, leurs cadavres ressusciteront. Réveillez-vous, exultez, tous les gisants dans la poussière. »
Une force de résurrection anime la parole et les gestes de Jésus. Une force, bien sûr, qui éclatera au matin de Pâques. Et aujourd'hui, le Christ ressuscité est toujours vivant et présent dans notre monde, comme en témoigne cet exemple d'un ami.
Dernièrement, j'ai dû aller d'urgence à l'hôpital. J'étais en train de mourir à cause d'une mauvaise alimentation et d'un laisser-aller dans les médicaments. J'ai reçu de bons soins et mon état dépressif s'est amélioré. Mais aussi par la prière, la méditation et la rencontre de quelques amis, j'ai changé de mentalité. Par la grâce de Dieu, je me suis libéré de nombreux ressentiments. Je suis comme ressuscité. Je me sens bien au-dedans de moi-même, ce qui me permet de rendre petits services autour de moi.
Eh bien, c'est ce que fera justement la belle-mère de Simon. La fièvre la quitte et elle commence à les servir. On sait que la femme juive est celle qui organise le repas du Shabbat, un repas qui est tout autant un repas de pain que repas de prière et d'échange sur la Torah. Ainsi, nous pouvons probablement comprendre le mot « servir » à ces deux niveaux, le service de la table, qui est de nourrir de pain, et le service de la parole de Dieu comme nourriture spirituelle.
Au matin, alors qu'il fait tout à fait nuit, Jésus se lève. Il sort et va dans un endroit désert, et là, il commence à prier.
Eh bien, quel est le sens de la prière de Jésus? Les récits de la retraite au désert, qui sont comme un résumé d'ailleurs de la vie de Jésus, ont montré que la mission de Jésus sera de livrer un rude combat contre les forces du mal. Et l'exorcisme est un exemple de ce combat. Le récit qui va suivre, le nôtre, parle de la guérison d'un lépreux. Or, la lèpre est à l'époque considérée comme le résultat d'un état de péché. Puis, on lira le récit du paralytique auquel Jésus dira « Tes péchés sont pardonnés ». Et ensuite, le récit se poursuivra par le repas chez un publicain avec des pécheurs. « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs », dira Jésus, pour expliquer sa conduite, une conduite tout à fait inhabituelle pour un rabbi. Une telle mission de pardon, Jésus va l'accomplir, mais non pas par ses seules forces, mais par la toute-puissante miséricorde de Dieu. Et c'est un des buts de sa prière, que de venir puiser dans le cœur de Dieu la force de la bonté qui pardonne. Et le désert sera un lieu privilégié où il se ressourcera dans l'amour du Père. Pour terminer, évoquons cette jeune juive hollandaise qui mourra au camp de concentration d'Auschwitz et qui décrit bien jusqu'à quel degré va l'amour tel que Jésus l'a vécu et tel qu'il veut le vivre aujourd'hui à travers ses disciples.
On ne peut rien nous faire, vraiment rien. On peut nous rendre la vie assez dure, nous dépouiller de certains biens matériels, mais c'est nous-mêmes qui nous dépouillons de nos meilleures forces en éprouvant de la haine. Nous avons tant à changer en nous-mêmes que nous ne devrions même pas nous préoccuper de haïr ceux que nous appelons nos ennemis. Nous sommes déjà bien assez ennemis les uns des autres. Chez les nôtres aussi, il y a des bourreaux et de méchantes gens. Je ne crois pas à cette prétendue méchanceté de l'homme nazi. J'aimerais toucher cet homme dans ses angoisses, en rechercher l'origine, le rabattre vers ses propres domaines intérieurs. Que chacun fasse un retour sur lui-même et extirpe et anéantise en lui tout ce qu'il croit devoir anéantir chez les autres. Le moindre atome de haine que nous ajoutons à ce monde nous le rend plus inhospitalier qu'il ne l'est déjà. Alors, Claas, le vieux partisan de la lutte des classes, dit « Mais ce serait un retour au christianisme. » Et moi, je repris « Mais oui, le christianisme, pourquoi pas ?»
Un exemple pris d'un très beau livre de Etty Hillesum, « Une vie bouleversée ». Oui, c'est ainsi que le disciple de Jésus sera en vérité le témoin de son maître, de ce maître qui, comme disent les Actes des apôtres, est passé partout en bienfaiteur, guérissant tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Vous pouvez aussi utiliser notre télécopieur, le numéro 256-1106. Vous nous trouverez également sur Internet. Vous pouvez également vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an, soit aux cassettes, soit aux feuillets. Téléphonez-nous, nous vous donnerons tous les renseignements. 254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine. Ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.